Bonjour à tous. Depuis le rapport de la SIAZ et encore récemment avec la révélation de faits d'abus commis par des institutions dans des institutions scolaires, on découvre avec stupéfaction et désarroi des récits de victimes, des personnes qui ont attendu parfois des années, des dizaines d'années, presque toute leur vie dans certains cas, pour raconter les agressions qu'elles ont subies et pour dire leur souffrance. Pourquoi et comment peut-on attendre autant de temps? Que se passe-t-il dans la tête et dans le corps pour que les victimes aient l'impression ou donnent l'impression que le traumatisme n'a pas eu lieu, qu'il est oublié, qu'il est enfoui, jusqu'à ce que soudain ce soit le choc du réveil? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder cette question du traumatisme avec un point de vue scientifique. Bonjour Jean-Paul Pérez.
Bonjour.
Vous êtes médecin de formation, votre spécialité c'est la réanimation et vous avez traité la question du traumatisme psychique au cours de votre parcours professionnel avant de vous intéresser plus particulièrement, plus récemment aussi, au traumatisme lié aux abus sexuels. Alors vous allez nous aider à mieux comprendre cette question, mais d'abord est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser plus particulièrement au traumatisme lié aux abus sexuels ?
Donc, comme vous le disiez, moi, je suis médecin réanimateur de formation. J'exerçais dans un service et dans un hôpital où on faisait beaucoup de traumatologie. Et à ce titre-là, j'ai découvert, voilà, dans ma pratique, ce qu'on appelle le traumatisme psychique. Mais c'était plus chez des personnes qui étaient victimes d'accidents, d'attentats, ou même des blessés de guerre. Et il y a environ 2-3 ans, par hasard, mon épouse et moi-même, on s'est trouvé à écouter une personne qui nous a raconté son histoire. Cette personne avait été victime d'une agression sexuelle en église, à Lourdes d'ailleurs. Et ce qui m'a étonné, enfin moi ce qui m'a rejoint, c'est que dans ce qu'elle racontait de sa vie, de ce qu'elle avait vécu, je retrouvais des similitudes en fait avec ce que moi je connaissais du traumatisme, qu'on pourrait appeler le traumatisme psychique de guerre. Et puis ensuite, par hasard aussi, ou par providence, je ne sais pas, il s'est trouvé que j'ai rencontré une personne que on connaissait depuis très longtemps en fait, et qui un jour m'a raconté son histoire dans une communauté où elle était victime d'agressions sexuelles. Et elle m'a raconté son histoire, et là, voilà. Puis après, on en a rencontré une troisième. Et donc, mon épouse et moi-même, on a commencé à s'intéresser à l'affaire, à la chose, pour essayer de mieux comprendre, d'être mieux formés sur cet aspect spécifique du traumatisme psychique après agression sexuelle.
Alors, est-ce qu'on peut définir le traumatisme? Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme?
Le traumatisme, il est un traumatisme psychique, si vous voulez, c'est lorsque l'organisme, en tout cas le cerveau, le psychisme est débordé, en fait. Il y a, quand on est confronté, si vous voulez, à quelque chose qui nous, ce qu'on pourrait appeler de manière un peu triviale, le stress, il y a des mécanismes d'adaptation qui se font, etc. Mais à un moment, ces mécanismes d'adaptation sont débordés et il se produit ce qu'on appelle une effraction psychique. Moi, j'ai des gens qui m'ont raconté qu'ils avaient vécu intérieurement comme une explosion, si vous voulez. Il y a une personne qui m'a dit, en moi, j'ai senti que ça, j'ai disjoncté. Il y a quelque chose qui
est. Il y a un bug, quoi.
J'ai disjoncté. Il y a quelque chose qui a éclaté en moi. C'est un peu comme si notre bulle psychique s'effondrait, éclatait. Et alors pourquoi ça? Parce que les personnes se trouvent confrontées à quelque chose qui est soit trop intense, soit qui est inconcevable, hors norme, qui est tabou, et ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de dire quelque chose par rapport à ça. On peut penser à un enfant vis-à-vis de la sexualité, par exemple. C'est quelque chose qui fait irruption dans sa vie, dans son psychisme, sans avoir les mots. Et puis, parfois, sans avoir les moyens de lutter contre. Et là, il se passe quelque chose. Et du coup, il y a un certain nombre de mécanismes qui se mettent en route dans le cerveau. Beaucoup de mécanismes pour protéger la personne, pour pas qu'elle meure sur place, quoi. Et donc, il y a des parties du cerveau qui se mettent soit en veille complète, ce qu'on appelle la sidération, soit en dissociation, c'est-à-dire que les personnes sont là sans vraiment être là, parce que c'est comme s'il y avait un coupe-circuit qui s'installe dans le cerveau pour ne pas être complètement submergé à la fois par le vécu qui est beaucoup trop douloureux, difficile et autres, et par toutes les réactions physiologiques aussi qui se mettent en place des réactions physiologiques qui sont normales, par contre, avec des sécrétions d'hormones, d'adrénaline, choses comme ça.
Et c'est-à-dire que ce qui se passe dans la tête a forcément tout de suite une incidence sur, sur le fonctionnement du corps.
Oui, bien sûr. Enfin, quand on est soumis, par exemple, nous, à quelque chose qui nous agresse ou autre, on sent bien qu'on a le cœur qui s'accélère, on a des suées, choses comme ça. Ça, c'est des réactions physiologiques normales. Mais si c'est trop intense, trop, quand trop c'est trop...
Le cerveau se met en sécurité un peu.
Exactement. Il y a comme une sorte de coupe-circuit. Mmh. On a une petite glande dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale et qui est une sorte de dispositif d'alarme et qui détecte avant même que l'on puisse verbaliser ou dire « Tiens, là, il y a une agression ». Et c'est elle qui va tirer la prise, en quelque sorte.
Et alors, ce temps de pause, il peut durer, alors on l'a vu là, avec les révélations d'effets d'abus, il peut durer des années, voire toute la vie.
Oui, parce que, en fait, dans ces moments-là, notre mémoire ne fonctionne pas de manière normale. Si vous voulez, on a ce qu'on appelle notre mémoire, c'est une mémoire autobiographique, c'est une mémoire chronologique. Tel jour à telle heure, il s'est passé ça, et puis j'ai rencontré tel jour à telle heure là. Mais là, il va se constituer ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et la mémoire traumatique, ce n'est pas du tout la même chose que la mémoire chronologique, parce que la mémoire traumatique, la caractéristique, c'est que le traumatisme reste actuel chez la personne, reste présent comme si c'était aujourd'hui. Un exemple que je donne souvent, c'est que vous pouvez être tombé sur une piste de ski, par exemple, vous êtes fracturé une jambe, eh bien vous pouvez raconter tel jour à telle heure, voilà, je suis tombé, je me suis cassé la jambe, ça m'a fait mal, etc. Mais il faut imaginer que ces personnes-là, c'est comme si elles se recassaient la jambe à l'identique à chaque fois, ou plusieurs fois par jour même, avec la même douleur, le même traumatisme, mais beaucoup plus intense, beaucoup plus violent, si vous voulez. Une autre image que je donne souvent, c'est qu'il faut imaginer qu'elles ont une alerte incendie. Vous voyez les sirènes qui sonnent là, quand il y a une alarme incendie. Et que cette alarme se met en route, toute seule, parfois, sur un événement, un son, une odeur, quelque chose. Et c'est envahissant chez la personne. Et donc, en sauvegarde par rapport à ça... la mémoire ne fonctionne pas de la même manière.
C'est pour ça aussi qu'il leur est difficile de restituer, alors quand tout d'un coup elles sont prêtes à parler, les éléments peuvent être un peu mélangés, fouillis, c'est difficile d'être précis sur la date, le jour, le contexte.
Exactement, et ça c'est très important de comprendre, parce qu'on peut imaginer qu'une personne va vous raconter ça comme un accident de la route, vous voyez.
Oui.
Donc en fait, la mémoire ne fonctionnant pas de manière habituelle, elle ne va pas engrammer les choses de manière habituelle. Il y aura des moments où elles seront incapables de le dire, d'autres moments qui vont être enfouis tellement profond qu'elles ne pourront pas le dire. Et on peut avoir l'impression d'avoir un récit décousu, d'avoir un récit où parfois même les gens sont tellement dissociés qu'il n'y a aucun affect, aucune réaction émotionnelle. Mais en fait, c'est de la sauvegarde, de la protection.
Parce qu'on l'a entendu aussi dans certains récits de victimes que, enfant, elles l'ont dit. Mais elles l'ont dit alors, d'abord à la manière d'enfant et puis peut-être aussi avec ces mots d'une personne blessée. Et elles n'ont pas été entendues, crues, leur discours n'était pas audible, peut-être parce qu'il était mélangé.
Y a de ça, oui, effectivement. Et puis, il faut avoir les mots pour le dire. Si vous voulez. Moi, j'ai écouté une fois une religieuse qui racontait, qui était rentrée très jeune dans sa congrégation, et qui a dit, il se passait des choses, mais vu mon niveau d'éducation sexuelle et affective, je ne savais pas, je ne pouvais pas dire ce qui se passait. Parce que je n'avais pas les mots pour le dire, voyez. Et donc, on peut imaginer qu'un enfant, face à des conduites sexuelles dans lesquelles il est pris, il ne saura pas dire. Il pourra dire, il y a des choses qui ne vont pas et autres. Et c'est vrai que c'est souvent du signal faible, en fait, ou du changement de comportement, du changement d'humeur, des choses comme ça. Et que dans le tourbillon de la vie,
on ne les perçoit pas forcément. Oui.
Non, c'est très difficile de faire le rapport, sauf... si on nous dit, ou si quelqu'un a dit que, tiens, ou bien d'avoir une conscience particulièrement aiguisée. Mais là, on est dans un autre type de rapport, si vous voulez, c'est un rapport médical, un rapport psychologique, c'est différent que les parents vis-à-vis de leur enfant, quoi.
Est-ce que notre histoire personnelle, elle a une incidence sur la manière de percevoir le traumatisme et est-ce que, par exemple, quelque chose qui va me traumatiser, moi, eh bien, cette même chose, vous, Jean-Paul Pérez, ne vous traumatisera pas parce que vous êtes équipé autrement dans la vie, quoi.
On est tous équipés différemment, c'est vrai. Après, dans les personnes que j'ai écoutées, effectivement, il y a des choses assez étonnantes et qui font que c'est aussi compliqué de comprendre ce qui se passe dans la vie des personnes. Je me souviens d'une personne que j'ai écoutée où le geste, c'était un geste qui pouvait paraître extérieurement affectueux, mais qui était complètement équivoque, en fait, entre deux personnes de même sexe. La personne a disjoncté. En fait, elle raconte très bien, j'ai disjoncté, j'ai enfoui ça au bout de, fin fond de moi-même. Et 18 ans après être allé voir un film, ça m'a repété à la figure, comme elle disait, vous voyez. Et puis, il y a des personnes qui racontent des trucs complètement sordides, incroyables. Et on se dit, mais comment ça se fait que ça impacte l'un, pas l'autre? Ben, c'est assez mystérieux. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans notre manière de réagir, elle est liée à notre histoire et ce qu'on a pu vivre précédemment. Si on a vécu dans un environnement de violence, un environnement de violence verbale ou physique, si vous voulez, eh bien, il y a un système d'emprise qui se met en place et forcément, on sera moins réactif, d'une part, par rapport à une agression, parce que ça rentre dans un cycle, si vous voulez, dans quelque chose, non pas de normal, mais d'habituel. Et puis, ça dépend comment on est équipé aussi sur le plan de la maturité.
Oui, bien sûr.
Mais pour des enfants, si vous voulez, c'est impossible quoi, d'avoir la capacité. Mais ce qui est étonnant, c'est par contre, dans tous les récits que j'ai entendus, c'est que quand la personne ou l'enfant disait « stop, ça suffit », parfois l'agresseur s'arrêtait, paradoxalement.
Ah oui.
Oui. Et là, on se dit, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit plus tôt? Pourquoi ils ne l'ont pas dit? Parce que entre la peur, la honte, la culpabilité, etc., c'est compliqué de s'en sortir.
Et l'incompréhension de ce qui arrive.
Exactement, ouais, c'est compliqué de se sortir de ça. Oui.
Alors, justement, une dernière question avant de marquer une pause. Sur ce réveil qui se passe, on l'a dit, parfois au bout de dizaines d'années, et puis parfois presque au bout de la vie, à la fin de la vie... on a l'impression que c'est toujours un récit extérieur ou un témoignage extérieur, enfin quelque chose extérieur qui tire la sonnette d'alarme. On l'a vu dans les récits d'abus, quand un scandale éclate quelque part, eh bien tout d'un coup des victimes dans un tout autre contexte et dans un tout autre environnement géographique, tout d'un coup se réveillent en disant « mais moi aussi ». Comment on explique ça ? Ça veut dire que ça peut pas être, que le réveil ne peut pas venir de soi, que c'est forcément un élément extérieur ?
Si, ça peut se passer comme ça, c'est-à-dire que un jour, la personne, elle n'est pas bien dans sa vie, elle ne se comprend pas, parce qu'elle ne se comprend pas elle-même. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis toujours sur mes gardes? Pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance? Des choses comme ça. Mais ça fait partie de sa vie, si vous voulez. Et puis, à un moment, la lumière peut se faire, et puis il y a quelque chose qui remonte par fragments. Mais c'est souvent des fragments comme ça. Ou bien, effectivement, en tout cas dans les témoignages que j'ai entendus, c'est parfois un bruit, une odeur, un son... moi, je me souviens d'un témoignage d'une personne qui disait quand je suis passé devant une église et là, paf, il y a des trucs qui sont remontés alors qu'elle était déjà passée plusieurs fois devant cette église-là. Et après, c'est vrai que le fait, quand il y a des histoires qui ressortent comme ça, il y a ce qu'on appelle de la réactivation, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un peu une double peine. Non seulement les personnes ont vécu quelque chose de terrible dans leur vie, mais en plus d'entendre parler que ça s'est passé aussi ailleurs, si vous voulez, ça les remet dans ce qu'elles ont vécu. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu une double peine. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'en sortir ou je m'en sors à peine. Et en plus, j'imagine, j'entends, je vois que d'autres ont vécu la même chose que moi. Et ça me remet là-dedans, si vous voulez. Et c'est compliqué, ça aussi, pour elles. Parce qu'à chaque fois, l'alarme va se remettre en route. Puis ça va être envahissant avec... des sensations désagréables, des émotions désagréables, et puis après avec des mécanismes de compensation qui peuvent se mettre en place, comme un certain nombre d'addictions, là sont clairement liées à des psychotraumatismes, parce que l'addiction est un moyen de dissociation en fait, vous voyez. L'alcool, les drogues et autres, ça permet de se dissocier et donc de mettre à distance.
Non, on atténue un peu les conséquences que le traumatisme a dans notre...
C'est pas une atténuation stricto sensu, c'est plutôt de l'ordre de l'anesthésie, si vous voulez. C'est de diminuer un peu ce que je ressens, en fait.
Qu'est-ce qui se passe après le choc du réveil? On en reparle juste après la pause avec vous, Jean-Paul Pérez. À tout de suite.
Présence à Auch 89.6.
Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Pérez et nous parlons du traumatisme psychique lié aux abus. Alors Jean-Paul Pérez, vous nous avez expliqué ce que sont les traumatismes et ce qui se passe dans la tête. Pourquoi, eh bien, quelquefois, le cerveau met sous silence le traumatisme et les raisons du traumatisme. Alors maintenant, on va aborder la suite. Une fois qu'il y a eu le choc du réveil, comment ça s'accompagne? Comment ça se soigne? D'abord, est-ce qu'on peut guérir du traumatisme?
Avant de parler de ça, je dirais que ce que vous appelez ce choc du réveil, effectivement,
c'est peut-être pas le bon terme.
Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, il y a d'abord un choc et parfois un réveil aussi, puisque, moi, je suis un témoignage où les gens disaient, mais je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça, et puis après, ça m'est venu et j'ai compris. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais en tout cas, j'ai mis en lien des images, des moments dans ma vie et autres. Et c'est pas simple dans la vie des personnes quand ça fait éruption, parce que il faut pouvoir être cru à ce moment-là, quand on en parle à quelqu'un, ce qui est pas toujours évident, parce qu'encore une fois, c'est parfois parcellaire, c'est parfois emmêlé, c'est très émotionnel aussi, ce qui est normal. On peut avoir peur des réactions d'un interlocuteur à qui on va raconter ça, ou bien il peut y avoir un mécanisme où les gens en ont parlé à un moment, mais ils n'ont pas été crus, ou bien on les a entendus, mais il ne s'est rien passé, si vous voulez, et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi?
D'où la nécessité de mettre en place des instances où la parole peut être recueillie et accompagnée. Et
oui, parce que les victimes ont besoin de trois choses fondamentales. La première chose, c'est d'être écoutées. La deuxième chose, c'est que l'on reconnaisse ce qui s'est passé pour eux. Et la troisième chose, c'est que des mesures de réparation soient mises en place. Écoute, reconnaissance et réparation, c'est vraiment un triptyque très important. Donc il faut des lieux d'écoute pour cela, où les personnes puissent se dire de manière gratuite, non jugée, avec des gens qui ont la connaissance de ce qui se passe, etc. Parce que c'est une écoute particulière, en fait. Parce qu'on revient plusieurs fois, etc. C'est un climat de confiance majeur, de gratuité, de reconnaissance.
Il faut que ça s'inscrive dans la durée, pardon, cette écoute.
Souvent, oui, par expérience. Après, il y a des gens qui disent, moi j'en parle une fois, puis j'en parle plus. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça.
Dépose le fardeau.
Voilà, et je vous en parle une fois, puis après, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler. Parce que dans la vie des personnes, il faut comprendre que c'est envahissant aussi. Parce que ça réactive des choses, ça remobilise des choses, et qu'elles ont réussi à trouver un équilibre dans leur vie jusqu'à présent. Et bon, elles n'ont pas envie. Mais donc, en tout cas, il faut ces lieux d'écoute. Et reconnaissance, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait une parole qui soit prononcée en disant « Oui, je reconnais que ce que tu as vécu, c'est vrai, d'une part. Et je reconnais toutes les conséquences que ça a eu dans ta vie. » Et si c'est une institution, il faut que ça soit une parole institutionnelle.
Officielle.
Donc. Oui, institutionnelle, c'est-à-dire qu'un représentant de l'institution dise « Effectivement, je reconnais qu'il s'est passé ceci et cela, et je vous demande pardon, ça c'est encore mieux. » Évidemment. Ensuite, réparation.
C'est le point le plus compliqué, la réparation.
Oui, c'est compliqué parce que là, pour le coup, ça dépend des personnes. Et puis, il y a des choses qui sont réparatrices pour certains, pas exactement la même chose pour d'autres. Moi, je me souviens d'une personne que j'ai écoutée et qui a réussi à retrouver la photo de son agresseur. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Elle m'a dit, je sais pas, je vais réfléchir. Et puis après, je l'ai rappelé, savoir comment ça allait. Elle m'a dit, moi j'ai pris la photo et puis je l'ai découpée en tout petits morceaux, etc. J'ai déchiré tout ça. Et puis après, j'ai jeté ça dans les toilettes, j'ai tiré la chasse. Et après, ça allait mieux. Vous voyez? Mais ça, c'était réparateur pour elle. Pour
et puis d'autres, elle a maîtrisé un geste, en fait.
Oui, mais ça peut être ça pour des personnes. Et pour d'autres personnes, il faut qu'il y ait une reconnaissance institutionnelle. Qui peut être formalisé, donc on parle beaucoup de sommes d'argent, de choses comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, elles ont perdu de l'argent dans leur vie, parce que leurs études ont été impactées, leur vie relationnelle a été impactée, elles ont dû se payer des psychothérapies, parfois, des choses comme ça, et ça coûte cher, c'est pas toujours remboursé, et donc c'est pas un remboursement, si vous voulez, mais ça participe à la reconnaissance.
Oui, c'est pas on vous donne un chèque et puis vous allez oublier, quoi.
Non, et ça va aller mieux après, non, mais ça participe en tout cas à cette réparation. Dans les armées, il y a des... Par exemple, il y a une médaille du blessé, ça participe aussi à la reconnaissance et de la réparation. Des journées mémorielles du blessé, des manifestations pour les blessés, par exemple, ça participe aussi, où les blessés sont mis devant, ils sont valorisés, ça participe à la réparation.
Et alors, vous le disiez, il y a des personnes victimes pour lesquelles, eh bien, tout cela ne va pas suffire, voire ne va pas aider. Est-ce que pour ces personnes-là, qui ne se retrouvent pas dans les mesures, dans les propositions de réparation qui peuvent être faites, est-ce qu'elles peuvent s'aider elles-mêmes, régler le problème seules? Est-ce que
on a besoin d'aide.
On a besoin d'aide.
On a besoin d'aide avec des professionnels formés pour aborder ces sujets-là, parce que c'est pas des choses qu'on aborde de manière frontale, c'est pas chirurgical, c'est-à-dire qu'on va pas inciser un abcès puis ça ira mieux après, parce que rentrer de manière frontale et brutale dans le traumatisme, il y a un risque de retraumatisation. Enfin, c'est pas un terme français peut-être, mais en tout cas ça peut retraumatiser les personnes clairement, et donc c'est comme une marche d'approche lente, précautionneuse, etc., donc avec des gens qui sont formés pour ça. Et puis, il y a des techniques aujourd'hui qui s'appellent l'EMDR. Alors, le terme anglais, c'est pardonnez-moi, je l'ai noté quelque part parce que je m'en souviens jamais. En tout cas, c'est une technique fondée sur les mouvements oculaires. C'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Donc là, c'est une approche plutôt médicale,
oui.
Scientifique.
Oui, oui, enfin, c'est pas forcément un médecin qui fait ça, mais c'est de manière incidente. Des gens se sont rendus compte que des mouvements oculaires, certains mouvements oculaires, pouvaient aider à, non pas à des. À ce que les gens soient mis à distance, mais pouvaient verbaliser, si vous voulez, ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles avaient vécu. Et c'est une reprogrammation cérébrale, en fait, quelque part, parce que nous avons une plasticité cérébrale, grâce à Dieu. Ce qui fait que cette technique-là permet vraiment d'aider les personnes. Ça, c'est prouvé scientifiquement.
Ça veut dire oublier ? Ça veut dire que le cerveau va effacer ?
Non, le cerveau va pas effacer, mais il va reprogrammer des circuits neuronaux, si vous voulez, qui fait que tout le travail, en fait, c'est de... faut imaginer une sorte de tableau à deux colonnes. D'un côté, vous avez la mémoire traumatique, et de l'autre côté, vous avez la mémoire chronologique, autobiographique, normale. L'objectif, ce que m'a expliqué une victime, et j'ai trouvé ça très parlant un jour, c'est de faire passer les événements, ce qui se passe du côté de la mémoire traumatique, de l'autre côté de la colonne, dans la colonne autobiographique. C'est-à-dire de pouvoir dire, ben, tel jour, il s'est passé ça, vous voyez, sans que ça provoque des réactions.
Donc c'est un fait dans ma vie, mais ma vie continue.
Oui, c'est ça. Ma vie continue, et donc je rentre dans une plus grande conscience de ce qui m'est arrivé, une plus grande conscience de ce que je vis aujourd'hui. Et ça demande de l'aide, effectivement.
Eh oui, donc ça nécessite des personnes qui soient formées et attentives à cette question du traumatisme. On approche à la fin de cet entretien, Jean-Paul Pérez. Nos évêques, les évêques de France, terminent aujourd'hui leur assemblée plénière de printemps à Lourdes. En début de semaine, ils ont vécu une session de 2 jours à la Cité Saint-Pierre. Ils étaient avec des victimes d'abus. Ils étaient aussi avec des personnes qui sont engagées à la fois dans l'accompagnement des victimes, mais aussi dans tout ce qui est mis en place dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les abus. Alors il s'agissait pour tout ce monde-là de regarder ce qui a été fait depuis le rapport de la SIAZ. Alors j'ai deux questions à ce sujet. D'abord, la première, c'est que le rapport de la SIAZ a estimé à environ 330 000 le nombre de personnes victimes de violences sexuelles dans l'Église. Or, il n'y a que 2300 personnes qui se sont signalées aux instances de reconnaissance et de réparation. Donc, la réparation, on vient d'en parler, mais ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire que ces instances de reconnaissance et de réparation, eh bien, c'est pas tellement ce qu'elles cherchent ou la manière dont on le propose, c'est pas ce qui leur convient. Comment on explique qu'on sait qu'il y a un très grand nombre de victimes et sur ce très grand nombre de victimes, il y en a très peu qui font la démarche de venir parler, en fait, tout simplement.
Alors, par rapport à ces chiffres, je vais pas rentrer dans les querelles habituelles et connues des chiffres. On nous ment pas, mais c'est vrai, c'est pas vrai, etc. La question fondamentale, c'est que il y a... c'est sûr qu'il s'est passé des choses, premièrement. Combien ? Il s'en est passé sûrement beaucoup. Le nombre exact, moi, m'importe peu. La Civise, là, qui est une instance qui s'est intéressée aux agressions sexuelles dont sont victimes les enfants en France, tout milieu confondu, estime qu'il y a environ 160 000 enfants agressés tous les ans, si vous voulez. Donc, vous imaginez, c'est un problème de santé publique, en fait. Donc, 330 000 versus 2000, comme je l'ai dit déjà, si vous voulez, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'en parler, qui n'ont pas envie de remettre ça au cœur de leur vie. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance aussi, simplement. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être décédées. Enfin, il y a sûrement des explications à ces chiffres-là.
Il y a aussi peut-être des personnes pour lesquelles le cerveau ne fera jamais ce fameux réveil dont je parlais tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Il y a des choses étonnantes. Moi, une fois, je suis écouté une personne âgée de 82 ans, là, au fin fond du Gers, et qui a vu passer dans le journal un truc sur l'INIR, ou je ne sais pas par quel hasard, si vous voulez, et elle s'est dit, tiens, j'aimerais bien parler. Donc, je suis allé l'écouter. Elle m'a dit, bon, voilà, on en a parlé. Et maintenant, c'est fini, terminé. Je ne veux plus en parler à personne d'autre. Je dis, mais est-ce que je... Non, non, c'est fini, je ne veux plus en parler à personne d'autre.
Et ça, il faut le respecter, ça.
Ben, bien sûr, parce que, si vous voulez, il faut comprendre que c'est des survivants. Et donc, ils ont réussi à survivre au prix d'un équilibre dans leur vie. Et parfois, de remettre en cause cet équilibre-là, c'est compliqué. Et donc, il n'y a pas de jugement à avoir envers eux. Le plus important, c'est de rentrer dans une culture du soin. En fait. Et prendre soin, c'est à la fois prendre soin des victimes, des personnes qui ont vécu cela, mais prendre soin, c'est aussi éduquer, je dirais en amont. Éduquer au respect du corps, c'est éduquer à dire non, au consentement, c'est rentrer dans une hygiène, je dirais, sociale de la relation, en fait, de façon à ce que ça ne se reproduise pas, d'une part, mais c'est aussi tirer les leçons de ce qui s'est passé. Mmh. Et pour moi, ces personnes victimes sont comme des expertes en quelque chose, et qu'il faut pouvoir écouter, et qu'il faut pouvoir dire, bah, telle chose, ça ne va pas, telle manière dont ça s'est écrit, ça ne va pas, par exemple, pour telle et telle raison, donc il faut en tenir compte. Et puis, dans les groupes... je dirais dans les groupes sociaux dans lesquels on est, il y a sûrement des personnes qui ont eu ce type d'expérience, et ben il faut être attentif à leurs paroles, en disant, tiens, je détecte des trucs, voilà, c'est pas tomber dans de la paranoïa, mais c'est tenir compte, en fait, du vécu des personnes.
Merci beaucoup, Jean-Paul Pérez, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Eh bien, on continue cette lutte et cette prévention contre les abus au sein de l'Église. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, en tous les cas, aujourd'hui, sur cette question du traumatisme lié aux abus.